Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Avant d'écouter ce nouvel épisode de Aix, je tenais à partager ma dernière trouvaille extraordinaire. The Braderie, vous choperez des pépites mode, déco, cosmétiques et voyages à des prix imbattables. C'est une application qui réinvente les ventes privées et qui est aussi le sponsor de cet épisode. Et si The Braderie est devenue la destination shopping de toute une génération avec plus d'1 million d'utilisateurs et plus de 470 000 abonnés sur Instagram, c'est pas seulement parce que les meilleures marques sont à moins 70% toute l'année, comme Bash, Jonac, American Vintage, Petit Bateau ou encore Gany. C'est surtout parce que les ventes débutent sur l'application une heure avant leur mise en ligne sur le site internet. Et oui, t'as bien entendu, les ventes se lancent une heure avant sur l'app. Une raison de plus pour l'avoir toujours dans ton tel. Et avec le code promo X15, tu bénéficies de 15 euros de réduction sur ta première commande des 60 euros d'achat. Alors n'attends plus, télécharge l'application The Braderie. Bonjour, je suis Agathe Le Caron. Bienvenue dans Aix, le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. On a l'habitude ici, on le sait, on peut être de deux religions différentes, deux bords idéologiques différents, deux villes différentes, et s'aimer quand même. Mais si en plus de tout ça, on a une famille qui n'accepte pas, bon là on a de quoi s'essouffler. Mais vous allez l'entendre, ce n'est pas le genre d'Edouard.
J'ai 18 ans, je quitte le domicile familial pour les études, je déménage en banlieue parisienne sur un campus universitaire et c'est pour moi le début d'une nouvelle vie parce que avant le supérieur, j'étais au lycée dans un contexte très compliqué. Dans ma famille, ça allait pas bien du tout. Ma famille a découvert mon homosexualité, mes parents, je comptais pas en parler, mais je suis pas quelqu'un de très adroit, donc finalement ça a fuité. Et ça s'est très mal passé, on m'a expliqué à quel point c'était mal, à quel point les homosexuels ne s'en sortaient jamais dans la vie, n'arrivaient jamais à construire de relations stables, heureuses, pouvaient pas construire de famille, même en faisant semblant, en adoptant, que ça pouvait pas marcher. Et moi, face à tout ça, je devais essayer de me construire quand même. Et bon, la culture populaire, ce que j'entendais au lycée, sur les réseaux sociaux, me disait, bon, apparemment c'est peut-être possible, mais au fond de moi, j'avais envie de croire mes parents, que j'aimais quand même, et qui me disaient que non, ils savaient, ils avaient vécu la vie, et ils savaient que c'était pas possible, que ça marchait pas. Et donc, quand j'arrive dans le supérieur, j'ai envie de tester, de confronter cette vision qu'ont mes parents à la vraie vie maintenant. Ok, c'est à moi de jouer, c'est à moi de voir vraiment ce qui est possible ou pas. Moi, j'arrive sur ce campus, c'est dans une école d'architecture que j'étudie. J'ai pris ça sans trop savoir pourquoi. Je suis juste très content parce que c'est assez loin de chez moi pour déménager. J'ai pas beaucoup de sous. C'est assez compliqué financièrement dans ma famille. Mes parents m'aident plus ou moins quand ils peuvent. Donc, par chance, l'université me met à disposition un logement social étudiant. Donc, je m'installe dans cette résidence étudiante sur le campus. Donc aussi, je quitte le domicile familial. J'ai mon propre appartement et c'est le début de ma propre vie. Moi, je suis plein d'espoir. Moi, je me dis, tout est possible. Je vais pouvoir me reconstruire une vie parce que ce contexte, il a fait que j'étais très malheureux, que le lycée, pour moi, c'était très dur à vivre. C'était l'occasion de me reconstruire une vie, d'être de nouveau heureux, de me faire des nouveaux amis, de rencontrer aussi l'amour, de savoir ce que c'est, de savoir comment ça marche. Me demander aussi si c'était possible vraiment de rencontrer quelqu'un comme ça par hasard, comme dans les films. Parce que c'est vrai aussi que j'avais jamais rencontré un autre homme gay comme ça par hasard. Ça m'était jamais arrivé. Finalement, bah, c'était beaucoup passé par les réseaux, les applis de rencontres. J'avais jamais trouvé ça très épanouissant. Et j'étais curieux de savoir ce que tous les gens normaux expérimentaient, c'est-à-dire, on s'entend bien et on construit quelque chose et hop, on est amoureux. Moi, je suis persuadé qu'il n'y a que comme ça que c'est possible. Moi, je crois en la grande histoire d'amour, je crois en le prince charmant, je crois que ça va super bien se passer. Ça, c'est dans une certaine mesure, parce que finalement aussi, il y a une partie de moi qui me dit « Ah mais rappelle-toi, Edouard, ça n'est pas possible ». Et du coup, quand j'arrive dans cette résidence, dans cette nouvelle vie, cette nouvelle école, je suis plein d'espoir et je me dis « Maintenant, c'est à moi de vivre ma propre vie et puis d'aller chercher ça ». Et donc, j'en parle à un ami de lycée, Clément. Je lui parle de tout ça, j'ai envie de découvrir, je suis curieux. Je me sens un peu seul aussi parce que je quitte tous mes repères. Et lui, il me dit, en ce moment, je suis en train de débattre pour les élections américaines qui se déroulaient à ce moment-là sur Instagram avec un garçon qui est gay et qui est contre le mariage pour tous. Donc, on débat de ça à l'occasion de ces élections-là. Va lui parler, je le trouve très intelligent, il est très intéressant, envoie-lui un message. Donc, bon, un petit peu curieux et à la fois, il faut bien tenter l'expérience. Je lui envoie un message sous le prétexte de « Tiens, Clément m'a dit que t'avais telle opinion, viens, on en discute. » Et donc, on débat et ce débat est stérile. Je le trouve pas du tout... intéressant. Je trouve que ses justifications sont un peu grotesques. Il me parle de sa foi, il me parle de sa famille, de sa culture religieuse. Ils sont protestants. Voilà, il me dit que Dieu a créé l'homme et la femme selon un certain dessein. Et bon, moi, je trouve ça complètement absurde. Lui-même est ouvertement homosexuel. Et d'ailleurs, c'est l'un de ses arguments. Enfin, c'est un peu aussi la puissance de sa position. C'est de dire, moi, je suis gay. Et je pense que voilà, c'est mieux pour élever des enfants d'être un homme et une femme. Dieu nous a davantage pensé de cette manière. Donc, c'est un personnage autant mystérieux que déplaisant dans un certain sens. Et donc, bon, je suis moyennement emballé. Mais lui, il a l'air un peu emballé, enfin, davantage emballé que moi. Et puis, on discute un petit peu sur Instagram de ça et du coup d'autres choses. Puis finalement, je lui donne mon numéro et on continue à discuter. Il s'appelle Anthony. Je sais pas trop à quoi il ressemble. Il a quelques photos sur son profil, mais il est pas... elles sont pas très explicites, donc je m'attarde pas trop là-dessus. En plus, puisque finalement cette conversation est pas phénoménale, je me projette pas avec lui de toute façon. Donc on continue à discuter parce que il pique ma curiosité quand même. Et puis il est quand même, c'est vrai, intéressant, mais pas tant que ça finalement. Et puis surtout, je suis rapidement déconcentré de cette relation avec lui par un autre garçon de mon école que je rencontre pour le coup par hasard. Et donc ce fameux hasard que je cherchais et que je trouve très très mystérieux. On discute avec ce garçon-là et puis on parle sur Snapchat un soir, deux soirs, une semaine, deux semaines. Et on habite dans la même résidence. Je sais à quoi il ressemble, je le connais, il est dans mon école, on se croise. Ça nous arrive de passer du temps ensemble avec des amis communs, mais lui et moi, on est mal à l'aise. Il me plaît pas spécialement physiquement, je suis juste curieux. Comme avec la précédente conversation avec Anthony, je suis curieux de savoir, de lui parler, de savoir qui il est, d'en apprendre plus. J'ai pas d'autres prétentions. Et puis un soir, je viens l'aider pour travailler chez lui et on passe une très bonne soirée. Je reste jusqu'à 4 heures du matin chez lui, on travaille, on met de la musique, on rigole. Et je reste dormir. Et là, on se lâche plus. Je quitte plus trop son appart. On est voisins, donc finalement, on passe énormément de temps ensemble. Je le lâche plus, et ce qui nous lâche plus non plus, c'est ce malaise. On devient de plus en plus à l'aise l'un avec l'autre, mais finalement, au fond, on s'entend pas vraiment. Je suis très amoureux de lui, donc je vois pas tout ça. Je vois pas les disputes, je vois pas quand on claque la porte, quand on se hurle dessus, qu'on n'arrive pas à discuter, qu'on se comprend pas, qu'on n'arrive pas à poser les mots, à dire ce qu'on ressent, à être à l'aise l'un avec l'autre. Je vois pas du tout tout ça. Je suis obnubilé par l'idée que c'est peut-être possible, en fait, une relation avec un garçon heureuse. Obnubilé par l'idée que c'est peut-être possible de... Voilà, le prince charmant. Et du coup, j'y crois à fond. Mais donc, ça se passe pas bien. Ça se passe pas bien pendant des mois et des mois. On fait fonctionner ça parce qu'on est très amoureux. Et donc pendant toute cette relation assez prenante, je finis par recroiser le chemin d'Anthony. Parce que du coup, on a cet ami commun. Anthony habite à Bordeaux. Et quand il revient sur Paris, il en profite pour voir cet ami. Et bah, moi, je les rejoins, je les vois aussi. Et je plais toujours à Anthony. Moi, je suis dans ma relation, je suis très amoureux. Rien ne peut me détourner. Mais c'est pas le cas d'Anthony. Et du coup, on se revoit à une soirée. Et donc, je le rencontre enfin. Et là, il me plaît pas du tout. Il a les cheveux plaqués en arrière avec du gel, une chemise ouverte. Il doit lui rester deux boutons de fermé, des chaînes. Ça me plaît pas du tout. C'est pas du tout mon style. Il mange n'importe comment. Il se fait faire 2 kilos de pâtes, je pense. Qui finit avec les mains. Il descend une bouteille de vin pendant le repas. Je suis très mal à l'aise. Exubérant, excentrique. Il crie. Il met beaucoup l'ambiance. Du coup, tout le monde l'adore autour de la table, sauf moi. Moi, je suis mais allergique à sa façon de se mettre en avant, allergique à son attitude. Il me déplaît vraiment beaucoup. Moi, je suis quelqu'un qui aime les codes, qui est voilà classique. J'aime bien m'habiller normalement, j'aime bien faire les choses comme il faut. Je suis très gêné par ce caractère de défiance envers les codes sociaux. J'aime pas du tout. Donc, bon, bah, on discute pendant cette soirée. Je suis très peu emballé. Et lui, il me colle, il m'invite à boire des verres avec lui, il pose son téléphone et puis il nous filme. Et je comprends pas pourquoi il nous filme pour boire un verre ensemble. Et je suis encore plus mal à l'aise et c'est un très mauvais moment que je passe. Il me séduit absolument pas. Et puis même il me rebute en fait. Et je vois ses ongles longs et je lui demande « Tiens, pourquoi tu te laisses pousser les ongles ?» Et il me dit « Ça fait des super massages crâniens. » Et il se met à me caresser le crâne avec ses ongles. Curieusement, je l'expérimente. Et là, je sens qu'il commence à essayer de me mordre dans le cou. Alors, bah, pas du tout. Déjà, j'ai un copain et puis tu me plais pas. Donc, je me lève poliment en disant « Merci, c'était super. » Je suis encore plus mal à l'aise. La soirée est une catastrophe. Et puis, du coup, assez tôt, finalement, on va tous se coucher. Et celle qui nous invite, une amie d'Anthony, me dit « Bon, alors du coup, lui, il dort là. » Et du coup, il reste un lit pour toi et Anthony. Donc, je suis vraiment pas content de cette situation. Et puis, en plus, on arrive sur ce lit, il y a qu'un plaid simple pour deux. Et donc, j'arrive à passer une nuit de 4 heures, 5 heures, sans le moindre centimètre de contact avec cet énergumène qui me déplaît maintenant vraiment beaucoup. Et je pars dès que le premier métro arrive, je m'en vais. Et du coup, là, on se reparle vraiment plus beaucoup. Moi, je reste dans ma relation où je suis amoureux, où j'ai tout à expérimenter, tout à explorer. Et pour l'instant, ça fonctionne. Et ça dure 6 mois de plus. Concrètement, on se dispute vraiment beaucoup. Et chaque fois, c'est disproportionné. Enfin, on peut démarrer une dispute pour un rien et se mettre à hurler, à disparaître, quitter l'appartement. Parce qu'on finit par emménager ensemble aussi. On se met à quitter l'appartement brusquement pendant des heures sans donner de nouvelles, à pas s'adresser la parole pendant un jour, une nuit, 2 jours. Je me reconnais même plus, je deviens colérique, je manque de casser une porte, un soir sous le coup de la colère. C'est très passionnel. Ce côté passionnel, il contribue à me dire que cette relation, elle a quelque chose d'intéressant. Il me fait me dire, voilà, on est juste super amoureux et on est juste deux personnes assez émotives et assez expressives. Donc voilà, ça doit être comme ça que c'est, en fait, l'amour. Et pas du tout, bah non, en fait, on s'entend pas. Et du coup, bah, ça continue jusqu'à ce que ce soit vraiment plus possible et qu'il me quitte. Ça, c'est en fin d'année scolaire. Je le vis super mal. Moi, je suis amoureux de lui. On vit ensemble. On a les mêmes amis. On est dans la même classe, dans la même école. Donc, en fait, on rompt, mais on se sépare absolument jamais. Je passe ma journée avec lui, puis je rentre chez moi le soir, il est là. Je sors avec mes amis, il est là. Je pars en vacances avec mes amis, il est là. Et donc, on souffre énormément. On est tous les deux super malheureux, on se fait du mal quand on va bien, et puis quand on va mal, on se tire vers le bas. Et bah, en fait, cette relation passionnelle et destructrice, elle continue en dehors du couple. Et puis du coup, arrive l'été, et donc cet été-là, je me dis, je profite, il faut que je fasse des rencontres, il faut que je vive des choses fortes, il faut que je rattrape tout ce temps que j'ai passé à me rendre malheureux, et que je l'oublie. Et que j'avance, et je suis encore très touché par cette rupture, donc voilà, j'aborde l'été avec une envie d'aventure, et justement, quelqu'un refait surface, Anthony, m'envoie un message, et on discute. Bon, j'ai toujours le même enthousiasme à son égard. Et on discute sur Snapchat. Et donc, finalement, il m'envoie une photo. Et là, waouh, il a complètement changé. Il a changé de style, ses cheveux ont changé, la manière dont il se présente a changé. Et je le trouve beaucoup moins déplaisant physiquement. Donc, bon, pourquoi pas. Mon regard, il change pas mal à ce moment-là. Je me dis, ce mec un peu bizarre qui cherche à attirer l'attention, il est plus exactement comme avant. Je ressens plus la même chose. Et on discute un petit peu, une semaine, deux semaines, par message. Et il me dit, cet été, j'ai une semaine où il se passe rien chez moi. Est-ce que ça te dirait de venir à Bordeaux? On passe une semaine, on ira au Cap Ferret à la plage. Et je me dis, bon, bah écoute, pourquoi pas? C'est le moment, c'est l'occasion. Et en plus, on a cet ami commun qui est là à ce moment-là à Bordeaux chez lui. Donc je me dis, bon, ça peut être que sympa. Sur un coup de tête, je finis par prendre mes billets la veille et j'y vais. On se retrouve à Bordeaux et ça se passe bien. Première soirée, on discute avec ses amis, on prend un verre. Je le trouve sympa. En effet, il a beaucoup, beaucoup changé. Je le trouve très, très beau. Maintenant, il me plaît vraiment beaucoup. Et on rigole et moi, j'avais passé 5 heures dans le train, donc je suis un peu surexcité. Donc, on sort, on va faire un tour. Et finalement, on passe toute la nuit, lui et moi, à discuter. On se balade dans Bordeaux sur les quais, on mange, on s'assoit, on débat. Donc lui, il est toujours aussi protestant, et moi toujours aussi athée. Et donc il y a tellement de choses qui nous opposent et on passe énormément de temps à débattre. Et je le trouve tellement intelligent, tellement cultivé. Et on débat et on n'est pas d'accord fondamentalement, mais il y a une espèce de respect. C'est-à-dire que à la fin de chaque débat qu'on peut avoir, on finit par dire « bon, j'ai raison, mais c'est pas grave, c'est juste très plaisant ». Et donc, bon, on se rend bien compte que ça se passe assez bien entre nous et ce soir-là, on finit par s'embrasser. Je sens pas que ce baiser est particulièrement important. Il me plaît beaucoup, on a passé une très bonne soirée, mais voilà, moi, je suis pas dans l'optique de me mettre en couple. Je suis encore très touché de ma relation précédente. J'ai juste envie de, voilà, m'amuser, vivre des choses intéressantes, en apprendre sur moi, continuer mon chemin. Enfin, je suis très ému, évidemment. Il me plaît beaucoup et je suis très content. Qu'on s'embrasse, mais c'est pas un basculement. Et à la suite, du coup, de cette nuit-là, on discute, il me dit, bon, on met les choses au clair, on est quoi? Alors moi, quand même, j'ai le souvenir de qui il était, j'ai le souvenir de tout ce qu'on a vécu de bien et moins bien. Je suis encore sur mes gardes et je dis, bah, rien. Il me dit, écoute, ça tombe bien, j'ai rompu récemment, je dis, bah, moi aussi, on est clair là-dessus. On se dit qu'au mieux, c'est une amourette de vacances et puis on verra. Ça me convient très bien parce qu'il a l'air super, mais voilà, je le connais à peine, et ce que je sais de lui me plaît pas spécialement. Et on passe une semaine exceptionnelle. On rit, on dort pas de la nuit, on parle, on se balade, on marche, mais je fais le tour de Bordeaux, c'est le meilleur guide possible. On parle des heures, il est passionnant, on parle de nous, on débat, on rigole, on pleure. On passe une semaine vraiment merveilleuse. Et à la fin de la semaine, je repars et je suis tout ému. C'était qu'une semaine, mais on a abordé tellement de choses et j'ai hâte de le revoir, j'ai hâte de continuer à lui parler. Pendant cette semaine, il me parle de son ex aussi. Il me dit que voilà, il a rompu récemment, c'était sa première relation. Pour lui, c'est quelque chose de très important. Ses parents se sont mariés et c'était leur première relation. Il aurait aimé suivre ce schéma-là. Il le vit comme un vrai échec d'avoir rompu. Et puis, il me parle de cette relation et moi, je me dis, bon, ça me fait pas trop peur. Cette relation avait l'air d'être bien moyenne. Donc, bon, je suis assez à l'aise avec ça. Je lui dis, bon, pour moi, t'as bien fait. Puis, on n'en reparle pas spécialement. Et du coup, voilà, on est de nouveau séparés. Et pendant deux semaines, moi, je suis pas du tout réseau. J'y passe très peu de temps. J'aime pas entretenir des relations à distance. J'aime pas parler par message. Mais alors là, c'est tous les jours. Des heures et des heures par jour. Ça m'arrive, je marche dans la rue, je lui envoie un message et puis finalement je m'assois dans le premier café et puis je passe une heure ou deux là parce que je suis dans la conversation à fond et que ce soit en fait à distance ou près l'un de l'autre, c'est la même dynamique, il me fait tellement rire, je le trouve passionnant, on parle énormément, l'idylle continue à distance et de plus en plus bah, je me mets à l'aise et puis je me dis bah, il est super en fait ce mec. Je me suis trompé. Et donc, au bout de deux semaines à se parler tous les jours, à continuer ce qu'on avait commencé à Bordeaux, il passe à Paris. Et du coup, il me dit, bah, viens, on se voit, on prend un café, on déjeune. Et du coup, on se voit à Paris. On passe une super journée. On s'allonge dans l'herbe, on discute. Et puis, au moment de repartir, il me dit, bon, je vais me remettre avec mon ex-petit copain. Je peux pas prendre le risque de laisser passer cette première relation. Il faut que je fasse en sorte à ce que ça marche. Donc, voilà, c'était la dernière fois qu'on se voyait. Je tombe des nues, je suis très en colère, j'ai envie de me lever, de lui mettre une claque et de partir, mais pour une raison qui m'échappe, je fais rien de tout ça, je dis ok, de toute façon on en a déjà parlé, tu sais ce que j'en pense de cette relation, écoute, si c'est ton choix, ça me convient. Et donc on finit notre rendez-vous, je le ramène à la gare, on s'embrasse une dernière fois et puis adieu. Il repart en train. Donc au début, je suis quand même un petit peu bouleversé. Mais étonnamment, je tiens pas mal le coup parce que je me dis, bon, finalement, il était... Bah, parce que voilà, cette relation avait vraiment pas l'air de fonctionner très bien. Et puis, s'il a pas la maturité de s'en rendre compte, et puis surtout de se rendre compte de tout ce qu'on partageait, de comment c'était génial tous les deux, bon, bah, il vaut pas le coup. Donc finalement, je lui dis que je préfère qu'on arrête de se parler tout court, qu'on fasse pas semblant d'être amis parce que je suis pas ami avec lui de toute façon. Donc on coupe les ponts. Et je m'en remets assez bien, même si voilà, je passais énormément de temps à penser à lui, même si je réécoutais telle ou telle musique qu'on écoutait tous les deux et que je me dis que c'était génial. On écoutait une chanson pendant cette semaine-là, c'est une chanson qui s'appelle « Elle ne t'aime pas ». C'est une chanson très douce, très jolie, et on l'écoutait ensemble, c'était agréable. Et là, ça prend une toute autre saveur de la réécouter. Et quand même, c'est une chanson qui dit qui est à l'espoir que ça revienne un jour. Et je m'accroche un peu à ça, mais bon, sans trop d'espoir, on parle plus. Et puis, je rencontre quelqu'un d'autre. C'est mes amis qui me le présentent. Donc, ils savent ce que j'ai vécu avec le garçon de la résidence, avec Anthony. Et ils me le présentent, ils me disent « Mais il est super pour toi, lui. » Il est respectueux, il est mature, il est fait pour toi. C'est celui qu'il te faut, en fait. Bon, d'accord, je le rencontre et en effet, il est super. On s'entend bien, on rigole. Donc, on se voit une fois, deux fois, trois fois. Et puis, bon, moi, je suis encore assez bousculé de ces deux précédentes relations. Enfin, oui, idylle. Et donc, bon, on va doucement quand même. Mais voilà, les mois passent et puis on construit une relation tous les deux qui se passe très bien. Mais voilà, je sens qu'il y a quelque chose qui manque. Je sais pas vraiment ce que c'est. Et pourtant, je m'accroche au fait que voilà, il est super, il prend soin de moi, on discute, je suis à l'aise. Il y a pas tout ce malaise qu'il pouvait y avoir avec le garçon de la résidence. Il me sort aussi de ce quotidien parce que j'habite toujours avec le garçon de la résidence et c'est un échappatoire qui fait beaucoup de bien. Et donc, je finis par en parler autour de moi, dire voilà, c'est quand même un peu bizarre. Je ressens cette espèce de gêne. Et puis, je repense à Anthony et puis je parle aussi d'Anthony. Je dis voilà, c'est pas comme c'était cet été, c'est pas cette passion, c'est pas cette évidence. Donc c'est vrai que Anthony, bah, c'est pas du tout celui qu'il me faut parce que il sait pas ce qu'il veut, il est perdu et puis il retourne avec ce garçon qui a l'air tout à fait moyen. Mais voilà, il y avait quelque chose. Notre relation se passe très bien et puis je me dis c'est le garçon qu'il me faut, qui prend soin de moi, qui me bouscule pas trop. Sauf qu'un jour, j'ai l'occasion de reparler avec Anthony parce qu'il parle couramment anglais et que j'ai besoin d'aide pour traduire mon mémoire. Donc on passe une heure ensemble à reprendre mon mémoire et puis après 4 heures de nouveau jusqu'à ce que je tombe de fatigue, on discute, on rigole, on se rappelle de l'été qu'on a passé. Et pendant cet appel, il me dit je suis plus avec mon copain, est-ce que ça te dirait qu'on se voit la semaine prochaine? Je repasse par Paris, on prend un verre. Je lui dis si tu veux, mais moi j'ai un copain. C'est pas l'amour de ma vie, mais c'est celui qu'il me faut, donc il se passera rien du tout. Du coup, Anthony me dit bah écoute, c'est pas la peine, tant pis. Je me dis bon, je perds rien, je suis avec quelqu'un qui prend soin de moi. Anthony il est super, mais il prend pas soin de moi. Et puis bon, cette proposition le prouve. Sans regret, on raccroche et puis on se reparle plus. Mais du coup, finalement, je finis par quitter ce garçon-là parce que je me rends compte que y a pas cette étincelle, y a pas ce que j'avais vécu l'été dernier. Et donc maintenant, je suis célibataire et je me rends compte que, voilà, c'est pas parce que je me demande ce que c'est l'amour, je me demande ce que je vaux, je me demande si c'est possible, qu'il faut que je me laisse embarquer dans n'importe quelle relation, ça me fait souffrir. Je me dis, bon, je reste seul pour l'instant, ça me fera du bien. Et ça se passe très bien au début. Sauf qu'un jour, je repense à Anthony. Un matin, voilà, je me lève et puis je pense à lui. Puis le soir, je rentre, je pense à lui de nouveau. Et puis voilà, tous les jours, j'y pense. Ça fait 6 mois, je pense, qu'on s'est pas parlé. 1 an maintenant qu'on s'est pas vu, presque. Mais j'y pense tous les jours et voilà, il y a quelque chose qui me fait battre le cœur. Et je réécoute telle et telle chanson et je pense à lui. Je passe par tel endroit et je pense à lui. Je passe par la gare où on s'est laissé l'été d'avant et je me dis que ce mec est super. Mais que bon, il est pas pour moi. Et un jour, je passe sur Instagram. Alors encore une fois, je n'y allais jamais. Et la première photo tout en haut... la seule que je verrai de Instagram, parce que j'y resterai pas, c'est Anthony. Donc je suis surpris de le voir dans mon fil d'actualité, parce que j'avais constaté qu'il m'avait bloqué. Donc je suis curieux, je vais sur son profil et en effet je suis débloqué. Et je me dis, au fond de moi, je me dis, bon, je suis pas fou, je sais ce qu'on a vécu l'été dernier, je sais ce qu'il y avait entre nous, je sais comment on arrive à se parler sans se dire les choses. Je pense que c'est pas par hasard. Plus qu'un signe, c'est un appel. Je pense que c'est un appel et que c'est une façon d'attirer mon attention. Donc je saisis la chance. Je commente la publication et il répond à mon commentaire. Donc là je me dis, waouh, je suis trop content. Ça, justement, je pensais à lui et puis là ça, quelque chose reprend et du coup je m'abonne à lui. Et puis 1 heure, 2 heures, pas de réponse, donc bon, pas grave. Et le lendemain, je reçois un énorme message qui me raconte, voilà, je suis toujours avec mon copain, on a toujours les mêmes difficultés, notamment de confiance, donc pour le moment on peut pas parler, on peut pas s'abonner l'un à l'autre, on peut pas... Mais j'ai repensé à toi tel jour, mais je repasse à Paris tel jour, comment ça va toi, la vie, j'écoute telle chanson en ce moment, et toi... Il me raconte un peu sa vie, dans un message plein d'humour qui me plaît beaucoup, et je me dis, il a pas changé, et il y a toujours cette espèce de complicité et d'évidence, et donc je réponds moi-même un long message en disant, bon écoute... Si t'es avec lui et que t'es heureux, tant mieux. Je veux pas interférer dans quoi que ce soit. Au fond, c'est pas vrai. Je suis très triste, mais tant pis. Et je lui dis, bah oui, en effet, je vais bien. Je fais ci, je fais ça. Et puis du coup, on parle un petit peu. Et puis, donc, dans cette petite conversation de quelques messages, cette conversation qui dit juste, bon, on continue à ne pas se parler. Finalement, on échange plein de choses. On écrit entre les lignes qu'on s'est pas complètement oublié et puis qu'on sait très bien ce qu'on partageait. Et à chaque fois que je cache un espèce de message, je me rends compte qu'il l'a eu et puis qu'il me répond avec la même subtilité. Donc je me dis, bon, il est super, mais il me file encore entre les doigts. Et une semaine ou deux plus tard, je reçois un message, un long message encore, un pavé de je ne sais combien de lignes, qui me dit... que j'ai pas vu sa notification d'abonnement sur Instagram, que j'ai loupé les quelques signes qu'il m'a envoyés, et que du coup, bon, il vient me dire clairement que il a quitté son copain, qu'il s'était rendu compte pendant notre conversation que ça fonctionnait pas, et qu'il aimerait beaucoup qu'on rediscute tous les deux. Moi, je suis comme un fou. Je m'étais promis la semaine d'avant de l'oublier, de passer à autre chose, mais ça compte plus du tout. Je dis bien sûr, je fais semblant quand même, mais finalement on reparle. Et je retrouve celui que j'avais laissé l'été dernier et des heures de conversation et de nouveau les rires et de nouveau cette relation super chouette qu'on partageait. Et on se retrouve, il m'emmène dans un restaurant gastronomique, toute la pièce est très calme. On mange super bien, évidemment, et nous, on est au fond de la salle et on se retient de pouffer de rire pour pas déranger les autres tables. On est heureux de se revoir. On est la dernière table à partir à la fin du service. On passe un moment génial. Et je le retrouve et je suis super heureux de le retrouver. Après, du coup, on quitte ce restaurant et on se balade dans Paris. Et on parle du coup de, bah alors, cette année, ce copain, alors... On se raconte nos relations et il me raconte cette relation qui avait l'air très mauvaise pour lui. Je suis épaté par sa sincérité. Il me dit les choses exactement comme il les pense, sans filtre. C'est très déconcertant parce que parfois c'est pas du tout à son avantage. Donc je suis vraiment épaté par ça. Je me rends compte qu'en fait, il a, un peu comme moi, avec le garçon de la résidence, essayé de faire fonctionner une relation qui fonctionnait pas, qu'il a donné beaucoup d'énergie à régler des problèmes qui étaient insolubles. Et on se comprend vachement, en fait, là-dessus. Sur toutes nos attentes sur les relations qu'on avait eues et sur tout ce qu'elles avaient de dysfonctionnel et notre façon de ne pas le regarder en face. Et toute cette soirée, on la passe à remettre tout ça sur la table, à remettre les compteurs à zéro, et il est complètement transparent là-dessus, et on rit, on pleure, on parle de ses parents, on parle des miens, on parle de nos histoires communes, et puis à la fois tellement différentes. Lui, il me dit, ce soir-là d'ailleurs, pendant qu'on évoque tous ces sujets, que Dieu est la chose la plus importante de sa vie. Et alors moi, c'est quelque chose qui me dépasse, mais tellement, je suis complètement athée. Puis d'ailleurs, je suis même contre la religion. Je trouve que c'est pas bénéfique dans la vie de quelqu'un, et je m'en éloigne. Et dès que je m'en rapproche, j'essaie de m'en tenir éloigné. Donc voilà, on a des points de vue complètement opposés là-dessus. Et pourtant, on se retrouve sur tellement de choses, malgré toutes ces différences de religion. Quand on parle de sujets très profonds, on se rend compte qu'on est complètement d'accord. Donc même dans cette altérité, on se retrouve. En fait, on se met assez d'accord pour dire que c'est surtout une histoire de mots, en fait. On n'appelle pas les choses par les mêmes noms, mais finalement, on a les mêmes valeurs. Et je le trouve intéressant, je le trouve intelligent, je le trouve passionnant. Et puis je suis épaté, en fait. Je suis épaté parce que j'imaginais même pas mériter quelqu'un comme ça. Il est pianiste concertiste, il parle 3 langues. Il est super sportif, il est magnifique, et tout le monde s'accorde à le dire à chaque fois que je monte sa photo. On dit « Ah, il est beau !» Et moi je dis « Oui, il est beau !» Et voilà, il y a en plus cette espèce de sincérité et de cette relation. Il m'aide à la gérer, il me met à l'aise pour parler de ce que je ressens. Il m'apprend tout ça, en fait, en lui se mettant un peu à nu et en lui me disant ce qui va pas chez lui et ses peurs, ses attentes. Du coup, on parle aussi de jalousie, d'exclusivité. On confronte toutes ces valeurs, en fait, qui sont différentes selon les confessions. Et on tombe sur des terrains d'entente. Et on évacue complètement ces questions en essayant juste de fonctionner ensemble. Et ça marche. Ça marche super bien. Mais pour l'instant, moi, je ne suis pas du tout prêt à m'engager dans quoi que ce soit. On a eu une année quand même... Enfin, une histoire entière, d'ailleurs, très, très compliquée. On part de vraiment loin. Je lui dis clairement que pour moi, il va rien se passer entre nous pour le moment. J'ai pas confiance en lui, au fond, parce qu'il y a eu tous ces allers-retours. Donc non, il se passe... Pour l'instant, juste on discute. Puis on se voit et puis on traverse mutuellement la France, en fait, pour se retrouver, parce qu'on habite toujours à 600 km l'un de l'autre. Et à chaque fois qu'on se voit, c'est un moment, mais c'est hors du temps. Il me fait énormément mûrir, il me fait me rendre compte aussi de toute la difficulté que j'ai eue à me construire, à aborder l'homosexualité. On discute de vraiment tous les sujets et on parle notamment de la virilité. On parle de notre rapport à ça et de comment on s'est construit avec des familles qui approuvaient pas spécialement l'homosexualité. Et ça m'aide beaucoup, en fait. Je me rends compte que j'étais pas si à l'aise que ça, en fait, avec l'homosexualité, que j'avais du mal à croire vraiment que c'était tout à fait normal. J'avais du mal à croire que on pouvait être heureux. J'avais du mal à croire que j'étais un homme comme les autres. Et il me dit, moi, je te trouve viril. Je lui dis, bah, comment ça Il dit, bah, voilà, t'es comme ci, comme ça. Non, moi, je suis désolé, pour moi, t'es très viril. Et il me fait me rendre compte qu'il n'y a pas de critères, en fait. Voilà, qu'on pouvait se voir comme un homme, comme les autres. Il me dit, tous les hommes ont des complexes. Il y en a qui sont petits, il y en a qui sont chauves, il y en a qui ont chacun leur particularité qui font qu'ils sont pas à l'aise. Et pourtant, bah... Ça en fait pas moins des hommes. Tous les hommes font face à ça, tout le monde fait face à ça et à ces petites différences. Et toi, t'as cette différence-là de l'homosexualité, mais ça fait pas de toi moins un homme, au contraire, puisque tout le monde vit ça. Et cette idée, elle me fait énormément de bien et elle me réconcilie vraiment beaucoup avec moi-même. Et puis surtout, je me rends compte que voilà, je suis dans une relation avec un garçon que je trouve exceptionnel, que tout se passe bien, qu'on communique énormément, qu'on laisse aucune place à un désaccord ou à une dispute, qu'on cherche vraiment à poser les choses et à se comprendre, que ça fonctionne en fait. Et puis voilà, je le vois avec des étoiles dans les yeux, je le trouve passionnant, je le trouve drôle. Il a une attitude face aux épreuves de la vie, il est tout le temps super positif. Et toute cette personne excentrique qui m'avait gêné il y a des années, je la retrouve, mais dans tout ce que ça a de génial, en fait, d'être tout le temps positif et tout le temps énergique. Et un soir, on sort tous les deux avec des amis à lui. On passe de nouveau une soirée géniale. Et ce soir-là, je le regarde dans les yeux et je me dis, non, c'est lui. Je regarde dans les yeux et puis je me rends compte de à quel point je suis amoureux de lui, de toute la personne géniale qu'il est et que finalement je l'ai trouvé ce prince charmant et que je le mérite et que c'est possible et je suis complètement transporté par cette révélation. Et donc je lui dis, on s'enfuit un peu de cette soirée, on a 40 minutes de marche pour rentrer chez lui et en sortant je le regarde, je l'embrasse et je lui dis je t'aime. Et donc lui, il est tout ému et on est tous les deux hyper émus de cet aveu qu'on se fait. Il me dit qu'il m'aime aussi. On rentre chez lui après cette soirée. Et puis il me sort un carnet qu'il avait chez lui. Et dans ce carnet, il y a des pages et des pages de lettres pour moi. Où il me raconte qu'il est amoureux de moi et que depuis ce mois où j'ai passé à le faire patienter, il m'aimait et il crevait d'envie de me le dire. Et il y a une photo dans ce carnet qu'un photographe avait pris de nous l'été dernier sur la plage, qu'il avait fait développer et qu'il avait gardé toute cette année-là dans un placard sous son lit caché. Et que voilà, il m'a dit qu'il savait qu'il serait toujours amoureux de moi. Et finalement, même dans la distance, tous les deux, au fond, on savait. Et là, quand je vois ce carnet, je comprends tout ce que ça vaut, cette relation, et on n'a jamais arrêté. Ces allers-retours, Bordeaux-Paris, on est super heureux. On se donne le temps qu'on peut se donner parce qu'on est étudiants, on a nos vies, on est assez chargés. Et à chaque fois, c'est comme cet été dernier, ça n'a jamais cessé cette relation d'évidence. Et du coup, on poursuit cette relation comme ça, malgré la distance, malgré les différences religieuses, financières, malgré cette histoire, on poursuit tout ça aujourd'hui. Moi, ça me semblait important de témoigner parce que j'ai beaucoup souffert avant de me rendre compte que c'était possible, en fait. Parce que au-delà des essais, des relations qui fonctionnent pas, c'est une question face à moi-même qui est très douloureuse de se dire, en fait, il y a peut-être personne fait pour moi et je rencontrerai jamais personne et peut-être que c'est pas possible. Peut-être que mes parents avaient raison. Maintenant, en fait, j'en reviens tellement pas de cette relation que je trouve tellement épanouissante, de cet équilibre que j'ai réussi à trouver. Que voilà, j'ai envie de le dire à tous les jeunes hommes comme moi qui se demandent si c'est possible, si ça va leur arriver, que voilà, c'est possible, que comme tout le monde on peut galérer, comme tout le monde on peut passer par des relations plus ou moins épanouissantes, plus ou moins faciles, mais que voilà, comme tout le monde on peut aussi être amoureux, être heureux, être dans une relation où on est respecté, aimé, où on fait fi de notre passé aussi, de tout ce qu'on a pu traverser, de notre vision de nous-mêmes, et qu'on peut juste se dire, voilà, on est heureux, on est amoureux, et on prend soin l'un de l'autre.
Merci à Clémentine Delagrange qui a réalisé cet épisode et à Agathe Soro qui l'a monté et mis en musique. Si vous aimez écouter des histoires de vie extraordinaires, foncez écouter notre podcast Les Rescapés. Et si vous êtes parent d'un ado extraordinaire, ils le sont tous, hein, un ado qui se pose beaucoup de questions sur les transformations de son corps ou de sa tête, vous avez aussi Est-ce que c'est normal ? Notre nouveau podcast qui répond à toutes leurs interrogations les plus intimes. Bonne écoute ! Merci pour votre écoute et merci à The Braderie, notre sponsor. Pour rappel, avec le code promo X15, tu bénéficies de 15€ de réduction sur ta première commande des 60€ d'achat. Alors n'attends plus et télécharge l'application The Braderie.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.